Donc j'imagine que quand il sera sorti, on va dire, ah oui, là, tu as très bien répondu. C'était bien, le costume. Il y a eu un pli à un moment, là, parce que tu as... j'ai pas fait attention. Oui, évite de te tourner comme ça, mais c'était très bien. Il n'y avait pas de pellicule sur le veston. Enfin, voilà, quoi, c'est une espèce de farce invraisemblable. Et mais c'est le Premier ministre. Et puis alors, en plus, sa gueule. Il en a trois couches. On dirait qu'il a été préparé par les croque-morts qui ont fait la toilette mortuaire à mon père, là, pour qu'il tienne trois jours avant l'enterrement. Voilà, enfin, c'est un monde, quoi. C'est un monde. Ça me fait penser un peu à ce que Gombrowicz dit, mais lui avec un regard critique, quoi. Les tentes culturelles de Gombrowicz dans Ferdi Dürck. Voilà, pourvu qu'il ait plu à sa famille. Et puis ensuite, il va y avoir une réception, sûrement. Une garden party. Et les cousines. J'ai oublié les cousines. Les frangines, sûrement un peu. Je sais pas s'il y a des frangines, mais... Les cousines, elles devaient se pâmer. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Dominique. Et ça devait être bien quand il avait une vingtaine d'années, là. À Sciences Po, dans les rallyes, tout le monde disait... elles devaient toutes dire... Ah, moi, je sortirais bien avec Dominique, quoi. Ah, là. Enfin... Elle est jolie, la France.
Oui, bonjour, ici Julie à Quimper. Donc, bonjour Daniel et bonjour aux auditeurs. J'ai écouté ton émission sur les méthodes de radiation de la NPE qui vise à diminuer les chiffres officiels du chômage. Et ce, le jour même où je recevais une petite feuille jaune qui m'incitait à prendre rendez-vous aux ACDIC les plus proches. Bon, pas très bon pour le moral, tout ça, mais je voulais quand même remercier Marie pour son témoignage et sa spontanéité. J'espère qu'ils sont nombreux à la NPE à avoir sa philosophie et son courage. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Patricia. Eh bien voilà, je suis infirmière enseignante dans une école d'aide-soignante au sein d'un hôpital public. J'écoute tes émissions tous les soirs avec attention quand je peux. Je viens d'entendre celle de ce soir jeudi sur les mots employés par Monsieur Chirac. Je suis dans l'incompréhension totale. Nous sommes bien des êtres humains. Comment peut-on s'adresser à d'autres êtres humains tels que nous sommes de cette façon-là? Monsieur Chirac n'a plus de conscience professionnelle. Je ne comprends pas, je suis révoltée quand même quand j'entends tout ça. Je sais pas, je comprends pas, je demande à comprendre. Merci, au revoir.
Oui, Barroso vient de parler en suivant au journal de France Inter à 18h. Il a parlé 30 secondes. En 30 secondes, il a dit trois mots. Chômage, insécurité, mondialisation. Marrant, non?
Ce jeudi 6 octobre, il est 20h37. Je viens de regarder le journal télévisé TF1. Après les sujets qu'il y a eu sur les bébés secoués, sur la viande avariée, la pollution... On a parlé à 20h35, exactement, à 20h35, de la mort de 6 Africains qui viennent d'être tués à la frontière espagnole-maroc. 6 hommes qui ont été tués par balle. En général, c'est en temps de guerre que les gens perdent la vie au passage d'une frontière. Là, en Espagne, tout près de chez nous, 6 hommes ont été tués. Et on passe cela à 20h35 en fin de journal. Je comprends plus rien. C'est vraiment lamentable et je comprends pas. La vie des hommes. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Salut, c'est Jackie de Dieulfi.
Oui, bonjour, c'est Pascal de Nantes. J'aurais voulu savoir s'il y avait un café repère sur Nantes, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas, donc je vous laisse mon numéro de téléphone si vous voulez bien me joindre. Et je me tiens au courant par la radio, évidemment. Merci.
Voilà, on ne sait pas. Non, pour l'instant, il n'y a pas de repère à Nantes, cher... auditrice, mais par contre il y en a un nouveau repère des amis de la basse, j'y suis à Pérouges, ça vous dit quelque chose Pérouges, c'est un petit village sur la nationale 84 entre Lyon et Genève, c'est dans l'Ain, et là le bistrot de la place du Plâtre, ça s'appelle l'endroit, c'est à l'entrée de la cité médiévale de Pérouges, Et c'est Claude, le patron, le gérant de ce bistrot. Et le premier rendez-vous des amis de là-bas, si j'y suis, ben c'est demain. C'est demain, 8 octobre. À 17h, voilà, si vous habitez dans le coin, si vous passez dans le coin, si vous avez envie de voir la tête des autres auditeurs de là-bas, si j'y suis, ceux qui écoutent cette émission, puis qui écoutent France Inter, eh ben, allez boire un verre. Donc, demain, voilà, c'est le nouveau repère de là-bas, si j'y suis, des amis de là-bas, si j'y suis, du jour. Il y en a déjà, je crois, une vingtaine à travers tout le pays. Aujourd'hui, on va parler de la fracture, ah, vous dites sociale. Eh ben, pas du tout. C'est pas la fracture sociale cette fois-ci. C'est la fracture coloniale. C'est un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions de la Découverte et qui va faire, qui fait déjà grand bruit dans la presse. Il s'agit, vous avez compris, de voir la société française aujourd'hui à travers l'héritage colonial. Finalement, ça fait assez peu de temps qu'on parle de cet héritage colonial. C'est un enjeu de mémoire, c'est un enjeu polémique. Et Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire ont réuni un ensemble d'auteurs, d'historiens, d'auteurs de toutes sortes pour une contribution autour des séquelles, des contentieux de cette mémoire à vif qu'est celle de la colonisation et de la post-colonisation, de l'époque post-coloniale. Pour eux, nous vivons dans une France post-coloniale. On va voir comment ils nous expliquent comment ils nous tendent un miroir à nous-mêmes. Aujourd'hui, auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. Si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Christian de Lille-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. J'ai regardé juste 5 minutes ce soir de l'émission consacrée par France 2 à notre Premier ministre, Monsieur de Villepin, et je suis tombé précisément au moment où il défendait bec et ongle les services publics français face à un Américain ultra-libéral. Et ça m'a fait penser à une autre émission qui avait eu il y a quelques mois, toujours sur France 2, cette fois-ci à 100 minutes pour convaincre, où Borloo était confronté à deux journalistes, un anglais et un allemand. Et l'anglais était très agressif, et Borloo lui a rivé son clou en lui parlant du pacte social français, de la protection sociale, etc. Alors je voudrais dire aux journalistes français, enfin aux journalistes de France 2, que les ficelles sont un peu grosses. Il ne suffit pas d'inviter un ultra-libéral anglo-saxon pour crédibiliser nos ministres. Parce que malgré tout leur beau discours, les services publics, ce ne seront bientôt plus que des coquilles vides. Voilà. À part ça, je suis allé manifester mardi à Avignon, et il y a une affiche qui m'a bien plu, sur laquelle était marquée 2005, séparation du MEDEF et de l'État. Voilà. Allez, au revoir.
Oui, bonjour, Claudine à Carcassonne. Je souhaitais laisser un petit message au sujet d'une mort, la mort du service social d'aide aux immigrants, qui était une petite association de 400 salariés qui s'occupait sur l'ensemble de la France des étrangers, donc des primo-arrivants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des conjoints de français, et voilà. Donc, Monsieur Fillon nous a mariés d'office en avril 2003 avec l'Office d'immigration internationale. Ça a été confirmé cette année par la loi Borloo. Et voilà que vient de naître, au 1er octobre 2005, l'Agence nationale d'accueil des étrangers et d'immigration, dont j'espère bien que dans quelques mois, une Marie Courage, comme la Marie de la NPE, parlera de son travail dans cette agence. Ce que j'ai oublié de dire, c'était que le SSAE existait depuis 1924. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que 50% des assistants sociaux qui travaillaient dans cette association depuis 2 ans l'ont quitté. Et là, nous sommes un tiers du personnel sur 400 à peu près à refuser d'entrer dans cette agence, voilà, et pour quelques-uns en difficulté, sans devenir ou dans une incertitude du lendemain. Nous voilà donc carchérisés aussi, parce que je pense que nous nous préoccupions un peu trop de la situation des étrangers. Merci Daniel pour tes émissions, un petit coup de cœur bien sûr pour les émissions qui concernent les étrangers, les Roms qui sont évidemment la population en plus extrême précarité, mais aussi pour les Tchétchènes. Je te remercie d'en reparler un de ces jours. C'est vrai que Aude Merlin, qui travaille avec toi sur ces émissions-là, était venue ici à Carcassonne nous présenter la situation du Caucase du Nord. Et c'est toujours avec une tendresse particulière qu'on vous entend sur ces sujets-là.
pour passer une petite info, pour demander à tous les auditeurs qui ont envie de venir faire un grand pique-nique avec nous dans les Bouches-du-Rhône à Peigné, à côté de Gardanne, dimanche 8, on leur donne rendez-vous devant la bibliothèque de Peigné pour un grand pique-nique, un partage citoyen et solidaire. À bientôt, salut.
L'influence de nos conquêtes coloniales sur le goût artistique de la métropole s'affirme chaque jour davantage. Les dames de la meilleure société raffolent des coiffures à l'orientale, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie et des ivoires africains. Nombreux sont les appartements parisiens dont les papiers peints exaltent un exotisme de ballet. Et que dire de ces gravures, ces estampes ou ces tableaux brodés qui reproduisent inlassablement des épisodes de Paul et Virginie, chef-d'œuvre du roman colonial? Tous ces témoignages, pour touchants qu'ils soient, ne restent pas moins la preuve indiscutable de l'œuvre considérable de la Troisième République dans nos colonies.
8h10, gare Saint-Lazare. Le train spécial amenant les premiers rapatriés d'Indochine, débarqué hier à Cherbourg du paquebot Pasteur, entre en gare. La masse sombre de la locomotive, auréolée d'une crinière de vapeur sifflante, envahit peu à peu le carré de ciel mauve que découpe la haute verrière obscure. Le train stop. Parents, amis, personnalités ministérielles, assistantes sociales, infirmières se précipitent. Nous les suivons. Voici qu'à quelques pas de moi passe M. Bonamy, résident de France à Luang-Prabang. Je vais tâcher de m'approcher de lui. Monsieur le Président, est-ce trop vous demander que de vous prier de confier au microphone vos impressions en débarquant à Paris?
Je ressens une joie profonde de rentrer dans mon pays et d'être accueilli de manière tellement charmante par les Français. Je suis heureux de rentrer dans mon pays et de nouveau pouvoir servir le général de Gaulle et le gouvernement. Et j'espère maintenant retrouver ma ville en Indochine que j'ai quittée avec infiniment de regret. J'ai quitté avec émotion les plaines du Laos dans lesquelles j'ai vécu et les indigènes qui ont été profondément dévoués pour moi et pour ma famille auquel je suis attaché du plus profond du cœur.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, la fracture coloniale.
Flight number 2, arriving from...
Pique-nique. Vous avez entendu dans ce message cette auditrice qui convie ses congénères à un pique-nique? Le mot pique-nique, c'est ce mot composé, pique-nique, pourrait être le titre de cette heure qu'on va passer ensemble. C'est sympa, pique-nique. Hein, c'est prometteur, pique-nique. C'est, on pense à quoi? Déjeuner sur l'herbe, Manet, Maupassant, partie de campagne, Grenouillère, Renoir, Beau Militaire. Ah, Beau Militaire, tiens. Beau Militaire, qui part pour où? Le Tonkin, ah, l'Outre-mer, la OEF, Casablanca, la Coloniale. La coloniale aujourd'hui, c'est la fracture coloniale. Dans ces temps lointains des déjeuners sur l'herbe, la coloniale, c'était la République, c'était la civilisation, c'était la France, c'était nous autres, c'était ce qu'on faisait de mieux. Or, pique-nique. Pique-nique, ça vient de deux mots anglais. To pick, qui veut dire quelque chose comme ramasser. Et nick, qui veut dire nigger. Pick, nick, ça veut dire ramasser un nègre. Ramasser un nègre, ben voilà, pour en faire ce qu'on veut, un barbecue par exemple. Oui, c'est ça l'origine du mot pique-nique. Et on le savait pas, on découvre ça. Il y a dans ce mot un impensé, il y a dans ce mot un refoulé, il y a dans ce mot quelque chose qui en dit long. L'ambition des auteurs de ce livre qui paraît, La fracture coloniale, dirigée par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire et tout un ensemble d'auteurs, est d'explorer cette fracture coloniale. Oh, bien sûr, on en a beaucoup parlé, notamment dans cette émission, mais pas seulement. Il n'est pas question de jouer les justiciers 40 ou 50 ans plus tard. Il n'est pas question de susciter des indignations rétrospectives, pas plus que de s'auto-flageller en tant que Français de souche, ou Français tout court, ou Français je ne sais quoi, qui aurions une culpabilité à assumer en tant que peuple français. Nous sommes des citoyens français, et la colonisation, le colonialisme, ça a été des politiques qui ont été suivies et voulues par les pouvoirs. La plupart d'entre nous n'y pouvaient. Donc, pas question d'autoflagellation, pas question de culpabilisation, pas d'indignation rétrospective, mais simplement de l'histoire. Quand on dit colonie, quand on dit ce mot colonie, on suscite tout un tas de d'images, au moins, et d'émotions, souvent, de nostalgie, parfois, de blessures aussi, dans l'esprit, dans le cœur de beaucoup, beaucoup de Français. Je pense aux anciens combattants, je pense aux harkis, je pense aux pieds noirs, je pense aux générations de Français issus de l'immigration, je pense aux musulmans, je pense aux asiatiques qui vivent ici, je pense aux africains de l'Afrique noire, je pense aux malgaches, enfin aux antillais, etc. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de Français qui, de près ou loin, sont des fruits de cette colonisation, sont dont les destinées, les passés doivent quelque chose, ont été influencés par la colonisation. Bref, nous sommes selon les auteurs dans une France, nous vivons dans une France post-coloniale. Est-ce que ça suffit à tout expliquer sur notre aujourd'hui? Certainement pas. Mais en partie, ça peut apporter quelques éclairages d'historiens, de spécialistes de tout poil, de tout bord, sur notre temps, tout simplement.
Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, en me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager.
On devrait commencer à parler l'exergue de ce bouquin La fracture coloniale. Il y a un petit texte court de Frantz Fanon, hein, que vous donnez en exergue, et qui dit assez bien l'intention de ce livre, mais qui fait d'emblée une réserve. Je vais lire complètement ce petit texte. Enfin, cet extrait de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, qui date de 1952, où il dit ceci. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez les Blancs d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Frantz Fanon, faut-il le rappeler, a été un des grands penseurs de la décolonisation. Il a été la grande référence pendant toutes ces années de la décolonisation. Pourquoi le citer? Parce que vous publiez avec Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire un bouquin qui est un événement, qui s'intitule « La fracture coloniale, la société française au prisme de l'héritage colonial ». Et c'est un ensemble de contributions autour d'un concept qui peut se résumer dans le terme d'une France postcoloniale. Pour vous, on vivrait aujourd'hui dans une France postcoloniale. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous expliquer tout simplement le titre ?
Ça me paraît une évidence d'être dans une France postcoloniale, puisqu'avant nous, il y a eu la colonie. Il y a eu une histoire coloniale, une présence de la France aux Outre-mer, qui a été assez longue, d'ailleurs avec des colonisations différentes, qui pourraient pratiquement remonter à près de 3 siècles d'histoire. Et nous nous situons aujourd'hui dans ce post-colonialisme. Ça ne veut pas,
Pascal Blanchard,
signifier qu'il y a une posture particulière. Elle est simplement à dire que quand on regarde ce présent, on ne peut pas totalement oublié qu'il y a eu un passé colonial. Cela ne veut pas dire non plus que le passé colonial induit, explique tous les comportements contemporains. Ça veut dire que sur certaines questions, sur certaines problématiques, sur certains enjeux du contemporain, la question coloniale, voire la traçabilité, diront certains, de cette histoire coloniale par rapport à notre présent, peut ou pas faire sens. Du moins, ce que l'on dit, il faut se poser des questions d'aujourd'hui aussi, entre autres, à l'aune de cette histoire coloniale, aussi bien dans notre rapport d'ailleurs au monde, dans notre rapport aux autres, que dans nos rapports à nous-mêmes, dans la manière dont on se voit par rapport au monde, dont on gère les problématiques, ou tout simplement, par exemple, la manière dont on construit la dialectique sur l'immigration dans ce pays, ou d'un certain type de problèmes qui émergent. Regardez, on voyait encore dans la presse ces derniers jours un livre qui sort sur un bilan fait à l'école, une étude faite sur Bordeaux, où on constate que dans 10% des établissements, 40% des étudiants, des enfants de la colonisation, plus des Turcs, alors intéressant dans cette étude qu'ils sont rassemblés, sont inscrits dans ces établissements scolaires, c'est-à-dire 8 fois plus que dans les autres.
Le livre s'appelle L'apartheid scolaire.
Voilà, L'apartheid scolaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand un titre d'un ouvrage fait par les sociologues sur le monde éducatif, sur nos écoles, les écoles républiques, prend comme titre l'apartheid scolaire, c'est des signifiants 40 ans après la colonisation qui sont encore en traçabilité par rapport à cette histoire coloniale. Et nous, Français, à la différence des anglo-saxons, avons du mal à accepter qu'on est aussi, pas seulement, mais aussi dans une société postcoloniale.
Longtemps
indigène apprend à travailler et à s'instruire. On lui apprend aussi à s'amuser selon des conceptions plus saines. La tâche n'est pas facile, car l'instinct est profond. Au premier relâchement de l'éducateur, les souvenirs encore tout récents de la vie primitive reprennent le dessus. La gymnastique rythmique redevient la danse obsédante de la brousse.
On vient d'entendre Dominique Vidal qui, avec Karim Bourtel, a publié chez Agone un bouquin qui s'intitule « Le mal-être arabe, enfant de la colonisation ». On a avec nous aussi Suzanne Citron qui est historienne et qui est l'auteur d'un livre qui avait fait, qui est une grande référence, qui s'appelle « Le mythe national ». Le titre dit assez bien votre préoccupation, mais vous avez notamment travaillé sur la construction du mythe national dans les livres scolaires, notamment, on va en parler. Et puis, Ronnie Broman, qui est ancien président de Médecins Sans Frontières et qui enseigne à l'Institut d'études politiques. Vous avez contribué dans la fracture coloniale, dans le bouquin La fracture coloniale, à essayer de décrire la persistance coloniale dans l'humanitaire. On peut résumer comme ça?
Oui, on peut le résumer comme ça.
Un petit peu abrupt
et qu'il y a différentes choses dans l'humanitaire, mais ce qui m'a incité à accepter tout de suite cette proposition de participer au livre, c'est ma conviction, mon observation surtout, et ma conviction que l'humanitaire contemporain doit quelque chose à la colonisation, disons aux versions, à la version humaniste de la colonisation, ne serait-ce que si l'on reprend ce que, par exemple, les ONG de développement et d'aide humanitaire, d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, il n'y a aucune distinction à faire. En l'occurrence et dans d'autres occurrences également, mais là c'est plus net qu'ailleurs. Il y a à la fois un paradigme altruiste et un paradigme modernisateur dans l'idéologie du développement qui fonde l'essentiel des pratiques. On va moderniser, c'est-à-dire sortir des sociétés plongées dans l'obscurité, prisonnières de leur tradition. On va les aider à s'émanciper d'elles-mêmes, à sortir de leur carcan traditionnaliste. Et puis on le fait au nom d'une position, au nom d'un idéal altruisme, de sacrifice de soi, de don de sa personne, etc. Or, précisément, ce sacrifice, ce don de sa personne d'un côté, cette volonté de moderniser, de sortir des ténèbres pour aller vers les lumières, c'est bien aussi ce que l'on appelait la mission civilisatrice de l'Europe et en particulier de la France coloniale. Alors il y a aussi bien du côté des motivations, des cadres intellectuels, que du côté des pratiques. Je donne dans mon article l'exemple des pratiques dites d'hygiène, que j'appellerais plutôt de morale hygiéniste que d'hygiène, mais qui sont évidemment nommées hygiène au sens où elles sont censées, la façon dont on fait bouillir l'eau, dont on se lave les mains, dont on organise la nourriture, dont on nourrit ses enfants, tout cela serait censé, disons, permettre de lutter contre une mortalité infantile due pour l'essentiel à des fautes d'hygiène. Je le dis sur le plan technique, c'est faux. C'est une illusion scientiste, ça n'est pas une réalité observée. En revanche, c'est un formidable levier de prise de pouvoir. On arrive chez des gens, on s'impose chez eux, on leur dit, ben voilà, vous nourrissiez vos enfants comme ça, ben il faudrait changer, il faut creuser une latrine ici, il faut organiser la cuisine comme ça, il faut se nourrir de telle façon. Bref, on se pose, comme j'essaie de le montrer, en instituteur de l'intime, en professeur de comportement auprès de
gens. Vous continuez l'œuvre des missionnaires.
Voilà,
c'est vous êtes un peu le goupillon moderne,
enfin,
le goupillon du libéralisme.
Moi, justement, si je parle de ça, c'est parce qu'à Médecins sans frontières, j'ai essayé, je tente toujours, non sans un certain succès, de lutter contre ce genre de pratique. Nous ne sommes pas, justement, des professeurs de morale hygiéniste, ou en tout cas, quand ce genre de dérive se produit, nous tentons, avec succès généralement, de la retenir. Mais c'est une pratique qui est assez largement utilisée parce que elle tombe sous le coup d'une sorte d'évidence scientifique, d'une évidence pratique qui est tout ça aide les gens, tout ça leur permet de vivre plus longtemps, d'avoir des enfants en meilleure santé, ce qui n'est pas vrai.
À l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Les tout seul.
Oh.
Les
ceci. Ah, très fort.
Ah. Mère.
Marie.
Marine.
Marine.
Cageux.
Les colonies, c'est fini. Le beau temps des colonies, c'est fini. Mais pour autant, l'esprit colonial a-t-il entièrement disparu? Quel est l'héritage? Quelles sont les séquelles? Quels sont les contentieux? On sait bien, on comprend bien que tout cela travaille en profondeur notre pays, pas seulement d'ailleurs notre pays, agit parfois comme dans le silence, comme un acide sur les bases même de nos consciences, de notre inconscient collectif, etc. Là, on le voit à travers ce que nous dit Ronnie Broman. Est-ce que l'idéal humanitaire serait porteur inconsciemment d'une certaine idéologie coloniale? Est-ce que le French Doctor ne serait pas un remake du missionnaire avec sa position qui est, voilà, la position du goupillon qui précède le sable? On va dire, ah bah attendez, c'est quand même caricatural. Qu'on se souvienne quand même de la guerre humanitaire, guerre et humanitaire du Kosovo en 1999. C'est un terme qui a été utilisé, vous vous souvenez, et qui a été à nouveau utilisé en Irak, avec offensive en Irak, campagne en Irak, qui a été soutenue par des tenants du devoir d'ingérence ou du droit d'ingérence qu'on n'avait pas du tout entendu lors du génocide du Rwanda. Donc on voit bien que l'idéal altruiste, humanitaire et la mission civilisatrice de la République, de la Troisième République, ont à faire l'un avec l'autre. Là, on a déjà un premier éclairage sur une séquelle, pour pas dire davantage. Alors, on est autour de ce bouquin, La fracture coloniale. Il y a une expression qui est apparue récemment dans le langage, et il faudrait voir Alain Rey là-dessus pour qu'il nous explique. Quand
l'expression « français de souche » est-elle apparue dans le langage ? À quoi ressemble cette souche ? Ça suggère quelque chose de naturel. Une souche, c'est quelque chose de naturel. Et évidemment, il n'y a rien de moins naturel que cette identité française. L'identité ne coule pas de source, c'est une construction imaginaire d'éléments, d'événements, de figures, de mémoires qui constituent autant de mythologies, soit des mythologies personnelles, soit une mythologie collective et qui répond aux nécessités du présent. Suzanne Citron est historienne, je l'ai dit. Est-ce que nous vivons dans une France post-coloniale ?
Pour moi, le problème, c'est au fond, à quand remonte cette colonisation ? Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans leur démarche, c'est qu'ils posent vraiment la question d'abord de l'identité nationale, du paradoxe entre d'un côté une supposée identité universaliste et les réclamations autour de l'exception française, et puis dans la colonisation, la négation de l'autre. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que au fond, il justifie le travail que j'ai essayé de faire il y a maintenant quand même une vingtaine d'années, qui est une réflexion critique sur la manière dont l'historiographie scolaire de la Troisième République a construit l'identité nationale, et les grands mythes de cette construction, qui sont d'une part le mythe de l'origine gauloise, qui est en quelque sorte qui a façonné l'identité, non pas sous l'angle de l'universalisme, mais qui, dans l'inconscient collectif, a ethnicisé l'identité française, ce qui a sous-tendu c'est la distinction entre les Français de souche et les Français immigrés. Donc cette identité d'une origine dont des colloques universitaires ont démonté les mécanismes, mais en fin de compte, l'université en tant que telle n'a jamais voulu admettre qu'il y avait nécessité d'un grand débat sur l'historiographie nationale telle que la Troisième République l'a forgée avec la grande histoire de France de Lavis. Donc le refus d'une déconstruction de notre histoire parce qu'il y a un tabou qui ne veut pas s'avouer comme tel. Donc moi je leur suis très reconnaissante à travers leurs problèmes à eux de nous obliger à nous interroger sur ce qui vient avant.
Dominique Vidal, donc vous publiez avec Karim Bourtel le mal-être arabe chez Agon, je le dis. Le titre, la fracture coloniale, évidemment, fait référence à la fracture sociale. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'entrée de jeu un conflit, un conflit conceptuel entre ces deux fractures ?
Moi, je pense, je voudrais dire d'abord que le livre que nous présente Pascal Blanchard avec Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel, enfin, le livre collectif auquel Ronit a participé aussi, c'est un livre très important, c'est un livre d'approfondissement et de synthèse en même temps sur une question décisive évidemment pour le passé de la société française mais aussi pour son avenir. Mais je crois qu'il faut bien à mon sens souligner qu'il y a deux manières avec laquelle cette fracture coloniale intervient dans notre société. Il y a la question de l'histoire proprement dite, de l'histoire coloniale, parce que c'est clair que son déni, son occultation contribue très largement à l'humiliation des populations issues de cette colonisation et qui vivent parmi nous. Elles contribuent à un sentiment de frustration, elles contribuent à leur malaise identitaire. Donc je veux dire, de ce point de vue-là, faire la vérité sur l'histoire coloniale, la vérité complexe sur l'histoire coloniale, c'est très très important aussi pour les enfants de l'immigration. Mais deuxièmement, je crois que quand on parle de fracture coloniale, on pense aux séquelles de la période coloniale dans la société française contemporaine, dans ses structures et dans ses mentalités. Autrement dit, pour moi, l'histoire coloniale, la fracture coloniale, aujourd'hui dans la réalité sociale dont vous parliez, elle s'appelle ghettoisation. La grande majorité des enfants de l'immigration sont ghettoisés aujourd'hui. Elle s'appelle discrimination dans l'accès à l'école, dans l'accès au travail, dans l'accès à la santé, dans l'accès à la culture. Je ne donne qu'un chiffre. Un jeune Mohamed du Val-Fouret a 6 fois moins de chances que Jean-Pierre
de Paris 13e d'avoir un entretien d'embauche. Je dis pas un travail, un entretien d'embauche. Il y a deux fois plus de chiffres, deux fois plus de chômeurs chez les jeunes dans les cités que dans la moyenne nationale. 50% dans les cités, 25% moyenne nationale. Donc, on a un héritage qui est aussi d'ailleurs, il faut le dire, celui du racisme, de l'islamophobie. Tout ça, c'est hérité de la période coloniale. Donc, je crois que c'est très important, j'allais dire, de faire le pont entre les deux bouquins, d'une certaine manière, c'est-à-dire faire le pont entre l'histoire et ses effets sur notre présent et donc sur notre avenir. Je termine juste en disant qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est, je ne sais plus quel est l'intervenant dans mon bouquin qui dit, tant que la société française ne se sera pas allongée sur un divan de psychanalyste pour gérer son passé, elle n'arrivera pas non plus à gérer son présent, y compris les problèmes que pose l'égalité des droits et des chances de tous les jeunes Français, à commencer par les jeunes issus de l'immigration.
Quant à nos chances d'insertion sociale, je préfère encore la franchise du Front National, une évidence que je pense partager par tous les sauvageons de France prêts à tout saccager. Vivre dans la hantise de se faire dégager, quand on l'extériorise, je comprends que ça puisse soulager. T'inquiète, on connaît le pédigré des gens qui aiment les immigrés analphabètes avec un fort accent. Comment rester sobre? Je suis sombre comme un soir du 17 octobre. Triste événement sanglant, déjà quarantenaire, gardez vos plaques et vos bougies d'anniversaire. Et où on brûle la vie et qui nous pousse à le faire, regarde-moi dans les yeux, le frère est dissuasif comme une arme à feu. Écoute, on a prévu d'acheter mon silence avec les ballons de foot de l'équipe de France. T'as cru que j'étais une pute ou l'amant de ta mère? Pendant qu'on y est dans les insultes, notre histoire s'arrête à l'âge de pierre. Le poids de ces mots révèle des certitudes avec lesquelles je devais dealer pour percer dans mes études. Et si aujourd'hui ce que je chante peut vous paraître peut-être une pauvreté affligeante, quand il y a de l'agressivité en face, obligé de parler sur le ton de la menace, question de dignité. Et par extension, mon nom, prénom, identité. Mon nom, identité.
Pascal Blanchard, je suppose que à peine ce livre était conçu, qu'on vous a dit, vous allez nourrir le communautarisme, vous allez nourrir l'ethnicisation de notre société. C'est quelque chose qu'on observe, dont on fait peut-être trop grand cas, mais on s'inquiète beaucoup de ces replis identitaires, de ces replis ethniques. Qu'est-ce que vous répondez, Aline?
Comme ça fait à peu près la 15e fois qu'on nous le dit pour le 15e livre qu'on fait sur le thème, on est à peu près habitué. C'est pas une surprise.
Mais c'est pour ça que ça
fait 15 ans qu'on entend ça. Donc maintenant, le repli identitaire, il doit tellement être replié qu'il doit même plus avoir de quoi se replier une nouvelle fois. Donc on est à peu près serein maintenant. Il n'y a plus de place pour qu'il se replie. Non, je pense que c'est un débat qui me rappelle un peu ce débat. On en a parlé dans un colloque récent, les années 70, quand Paxton est arrivé avec son livre, où la presse titrait « La France va être fracturée en deux, on va rouvrir les plaies que le gaullisme avait su refermer en 45, on nous rouvre le débat sur l'épuration et la libération, au scandale ». Désolé, il n'y a pas eu vraiment d'émeutes dans les campagnes en 74-75.
On parle du livre de Paxton, « La France de Vichy ».
Exactement. Je pense qu'on est dans les mêmes fantasmes. Ça ne veut pas dire que ouvrir ce débat aujourd'hui n'induit pas des réactions, ne peut pas induire, pourquoi pas, même que ce livre, comme d'autres, peut être utilisé et pris, voire déformé dans son appréciation, dans ses réflexions, par certains au niveau d'une certaine forme de militance, par exemple, de la repentance. On ne le nie pas. Mais en même temps, aujourd'hui, si on est lucide, le silence, le tabou, le fait d'enfermer cette question est bien plus dommageable pour la société française et la République que d'en parler. Ça fait 40 ans que la thèse du grand silence sur la période coloniale est la thèse dominante de l'État. 40 ans que, d'une certaine manière, on décide d'enfouir ces problématiques en disant « Attendez, ne les soulevez pas, ça va accentuer le communautarisme, ça va renforcer la guerre, ça va déclencher des oppositions, la République va être mise en pied, ne critiquez pas la République, c'est des armes données à ses ennemis ». Conclusion, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le repli communautaire, il y a les ghettos, il y a une critique fondamentale qui est faite à la République qui n'a pas su regarder son passé, il y a un reproche des gamins dans les écoles qui ne veulent plus entendre l'histoire qui est enseignée par les manuels scolaires parce qu'ils disent que c'est une histoire qui est incomplète, il y a des enfants qui se sentent illégitimes dans ce pays parce qu'on ne leur raconte pas l'histoire de l'immigration depuis le début du siècle, aucun manuel scolaire, c'est tout bête vous allez me dire, mais ne dit que le métro parisien était entre autres construit par des kabyles. Je vais me dire, à quoi ça sert de parler de ça? Ça sert qu'aujourd'hui les jeunes kabyles de France de 2005 se disent, tiens, il y a un siècle, il y avait des kabyles à Paris. C'est peut-être bête, mais quand vous voulez être légitime dans un pays, ça commence par être légitime dans l'histoire qu'on vous enseigne. La difficulté, elle est qu'aujourd'hui, je pense que justement, le communautarisme, et encore un mot que je déteste, parce qu'il ne veut strictement rien dire, c'est d'une telle multiplicité, d'une telle complexité le débat qui existe aujourd'hui en France, comme ailleurs d'ailleurs, fait que je pense qu'il est largement plus renforcé aujourd'hui, par exemple, on l'a vu à Toulouse, quand vous voyez dans une banlieue, au Mirail, à Toulouse, un gamin de 16 ans, qui n'a pas encore été en première, en terminale, qui est capable de vous parler du décret Crémieux de 1870, vous vous dites, tiens,
Ce gamin connaît l'histoire du décret Crémieux de 70 qui a donné la citoyenneté aux Juifs d'Algérie. Il l'a pas appris à l'école. Comment un gamin de 16 ans peut connaître ce sujet? Ben parce qu'il y a d'autres intégrismes qui reviennent dans les banlieues en ce moment, à la place de la République dans les écoles, et qui commencent à enseigner une certaine forme de lisibilité d'histoire de France à travers les non-dits de la République. Conclusion, vous avez une petite bombe à retardement qui vient voir l'historien qui lui dit « Monsieur, ça existait le décret Crémieux ?» Un, vous devez travailler contre le silence, puis vous devez travailler après contre la manipulation des silences, et en plus vous devez travailler quand ce petit gamin vous dit « Et en plus, monsieur, de toute façon, moi la seule fois où j'ai vu un arabe qui réussissait à la télévision, c'est quand il était pilote de ligne. » Vous avez à la fois un énorme ensemble d'éléments qui constituent aujourd'hui son identité, qui est fait de frustration, de silence. Donc il a un sentiment que la République manipule et son histoire et l'histoire républicaine. Donc il a du mal à y croire en cette République. Et en plus, il est souvent la troisième ou quatrième génération. Alors celle des pères de venir mourir et repartir au pays, celle enfin, des grands-pères, celle des pères venir se battre pour les Trente Glorieuses. Et qu'est-ce qu'ils ont l'impression de terminer comme les oubliés de l'histoire dans les quartiers de Toulouse. Là, on a démarré ce bouquin dans une étude terrain. Et eux-mêmes ont le sentiment de ne pas avoir de place ni sociale, ni culturel, ni identitaire, voire même de place tout simplement normale. Je me souviens de ce livre d'YB, je ne sais pas si vous vous souvenez, à La Superstar, qui disait « La difficulté quand t'es arabe en France, c'est que t'es même pas anonyme, t'es arabe ». Cette difficulté-là, elle est au creuset maintenant de ma génération postcoloniale. Parce que mes aînés, dans les années 60-70, ont pas fait le boulot. Ils ont pensé que tourner la page de l'histoire coloniale, ça suffirait. D'ailleurs, on les comprend un petit peu. C'était compliqué, on rentrait dans autre chose, un nouvel empire se construisait, l'Europe. Il y avait une sorte de nouvelle dynamique. On a pensé que cette page d'histoire se tournerait sans séquelles. Il y a eu les amnisties, par exemple, pour l'Algérie.
C'était vécu comme un échec aussi.
Mais c'est un échec. Mais c'est un échec et militaire d'une certaine manière, aussi un échec de la République est parti 100 ans plus tôt.
C'est un échec des valeurs républicaines, oui.
Exactement, parce que, on le dit très bien dans le livre, ceux qui sont partis aux Outre-mer ne sont pas tous partis pour exterminer. C'est beaucoup plus compliqué la colonisation. Certains républicains qui ont cru en ces valeurs, ou des missionnaires, par exemple, ou des médecins, ont véritablement cru à leur mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'ils se sont pris à un moment au jeu de leurs propres images. Le problème, c'est que ce serait quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une société qui a vécu 130 ans de dynamique outre-mer, voire deux siècles avant avec l'histoire de l'esclavage et les vieilles colonies, qui a quand même contrôlé, sous ses ordres, plus de 650 millions d'individus, qui fait que près de 50 pays au monde aujourd'hui sont francophones, que tout ça n'ait aucun impact sur le présent. Comme dit Jacques Chirac, d'une certaine manière, il peut dire en 2004, la France n'a jamais colonisé Haïti. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Dorini, c'est que deux siècles après l'histoire d'Haïti, on arrive même à dire un président, sans être pris par aucun journaliste de France, la France n'a jamais colonisé Haïti. Et dans 20 ans, si on écoute un député comme Vanesse, qui a fait sa loi du 23 février 2005, la France n'aura apporté que du positif aux colonies. Ok, il y a eu quelques exactions, ce qu'il vient de dire dans une émission, mais tout ça, c'est quoi? C'est une affaire d'interprétation des historiens.
Ce matin, l'Algérie en pleine campagne pour le référendum du 29 septembre sur la réconciliation nationale. Le président algérien Bouteflika hausse le ton contre la France. Il exige une repentance sur la colonisation contre un traité d'amitié.
Oui, et quand on croit la tension retomber, il revient à la charge. C'est un dur à cuire, mais enfin, il ne faut pas aller chercher bien loin une explication à ces logorées. Nos chers députés lui ont donné l'occasion qu'il attendait avec cette fichue loi votée en février dernier, sous pression des lobbies de rapatriés, présentant l'occupation française comme une œuvre civilisatrice. Elle va même plus loin, cette loi, puisque de nuit, un parlementaire y a fait ajouter un article qui prévoit que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de l'expérience coloniale en Afrique du Nord. Autant vous dire que cet éloge de la nation aux colons a fait bondir les Algériens, comme si les choses n'étaient pas suffisamment compliquées entre nos deux pays. Franchement, on est tenté de dire aux députés de quoi je me mêle. À chacun son métier, ce n'est pas aux politiques d'imposer l'histoire officielle dans les manuels scolaires. Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe. Seuls les historiens peuvent restituer la vérité du passé de façon objective.
Objective, chers consoeurs, pas plus objectif que nous autres. Mais enfin, s'efforce-t-il de présenter des faits avec leur subjectivité. Mais c'est vrai que cette loi, qualifiée de loi scélérate, on peut sans hésitation la qualifier de loi scélérate, comme Claude Liozu, par exemple, l'a fait, qui était lui aussi historien, qui était venu d'ailleurs nous voir dans cette émission, autour des mêmes thèmes de l'histoire de la colonisation, de la chanson coloniale, si vous vous souvenez, et évidemment qui s'insurge, et d'autres avec lui, contre cette loi qui impose, c'est une loi, aux enseignants d'apprendre à notre belle jeunesse le rôle positif de la présence française outre-mer. Autrement dit, c'est plus qu'un bilan globalement positif, c'est carrément quelque chose de positif. Or, évidemment, alors, évidemment que ça a relancé, bon, non seulement dans nos relations avec l'Algérie,
l'Algérie, de la fin de la, du gouvernement français avec le gouvernement algérien, mais aussi ça réveille cet héritage colonial, ce passif, ce contentieux colonial. Autre chose qui a frappé les imaginations dans les derniers mois, c'est l'appel des indigènes de la République. Un certain nombre de militants, d'intellectuels impliqués, engagés, ont lancé ce manifeste qui a fait grand bruit, qui a été contesté, qui a été rejeté, qui a suscité indignation et exécration, mais qui a eu au moins le mérite, de reposer la question de cet héritage colonial, de ces siècles de colonisation, et comment aujourd'hui nous continuons de vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. Et or, nous aurions tendance à passer ça sous le tapis. Longtemps, on l'a fait. Et aujourd'hui, d'en débattre, mais d'une façon que les auteurs, en tout cas de ce bouquin, La fracture coloniale, trouvent incomplète et essayent de contribuer à éclairer, sans avoir pour autant tous approuvé ce fameux appel des indigènes de la République.
J'ai répondu à la question déjà. Nous n'avons pas signé cet appel pour des tas de raisons très objectives. On l'explique dans un article du Monde. Par contre, c'est pas du tout étonnant qu'un mouvement comme ça émerge aujourd'hui. On est typiquement, ce que disait Dominique tout à l'heure, sur la frustration d'une génération qui maintenant décide justement de prendre Fanon au mot et de retourner le débat. Il dit, c'est plus un débat du blanc, c'est notre débat. On va le prendre même comme oriflamme, voire même comme objectif politique, en disant que la société d'aujourd'hui est une reproduction de la société coloniale, et va en faire une sorte d'étendard de combat face à la République. Je dirais que je m'oppose totalement à leur thèse, ce qui n'empêche que c'est intéressant de discuter avec eux, parce qu'ils sont, je trouve, un excellent révélateur de l'état de la société française, ce que nous ne voulions nous pas voir. On disait, mais non, ceci est un débat d'intellectuels, attendez, quand vous voyez le mouvement des indigènes de la République, la résonance qu'il a pu avoir dans des quartiers où des gamins aujourd'hui, comme des adultes, vous en parlent sur trois générations, alors bien sûr, ça reste encore un microcosme. Mais la manière, c'est aussi, par exemple, dans la communauté black en France, vous allez voir qu'il y a d'autres mouvements qui sont en train de se mettre en place, par exemple, par rapport à l'esclavage. Tout ça est concomitant. Mais regardez en face, il y a exactement la même réaction aujourd'hui, par exemple, avec des mouvements comme Jeunes Pieds Noirs. Mais ils sont en marge quand même d'un mouvement plus vaste, d'une demande assez simple, mémorielle, qui a pour moi n'interpelle pas simplement les enfants de la colonisation. Ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a plutôt affaire à une société française qui commence enfin à s'interroger sur ces questions. Parce que sur le fond, quand une république en arrive à voter une loi, la première depuis Vichy, on oublie souvent de dire que Vichy aussi, sur les manuels scolaires et sur l'éducation, avait imposé quelques valeurs positives en termes de lisibilité de l'histoire. Depuis Vichy, on n'avait pas vu une loi comme ça qui dictait aux historiens et aux enseignants, et surtout aux directeurs de manuels scolaires, de parler positivement de la colonisation. Quand l'État en arrive à faire une loi pour dire ça, c'est que d'une certaine manière, il se passe quelque chose de fondamental. C'est que la pression sociale aujourd'hui, la demande sociale, la demande mémorielle, commence à être aussi forte que le silence de l'État. Car ne nous leurrons pas. L'État, depuis 40 ans en France, a choisi, pas forcément un camp, a choisi une posture. Celle du silence. Celle de, ok, la colonisation globalement a été positive, et puis de temps en temps, il y a eu quelques exactions de militaires, comme avait très bien dit Jacques Chirac à Madagascar pour 47, ou l'ambassadeur de France en 45. C'est aujourd'hui la règle. Le problème, c'est que cette règle-là ne correspond pas à l'histoire, ne correspond pas à l'attente de nos concitoyens.
En même temps que cette loi du 23 février 2005, encourageant donc les enseignants à présenter positivement l'œuvre française, était promulguée, on avait, quelques mois plus tard, le 8 mai 2005, à l'occasion de la commémoration des massacres de Sétif, l'ambassadeur de France en Algérie, qui reconnaissait officiellement la responsabilité de la France dans ces massacres. Donc d'un côté, on a des reconnaissances et des pas en avant, même si cette reconnaissance n'a pas fait grand bruit ici, peut-être en Algérie, j'en sais rien, mais on a quand même un double mouvement.
Je crois, Daniel, ce que tu dis là est très important, parce que c'est au fond le problème qui est en débat avec les indigènes de la République, c'est de bien mesurer ce qui reste en retard, mais aussi ce qui avance. Fondamentalement, pour moi, les indigènes ont évidemment raison.
Vous connaissez qu'on résume l'idée des indigènes, parce qu'on va très vite, on connaît, on s'intéresse tous à ces sujets-là, mais
je crois, quand on regarde leur texte, c'est clair qu'ils ont fondamentalement raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous vivons, et dans laquelle vivent en particulier les banlieues, si on ne remonte pas à l'histoire coloniale, à ce qu'elle a été. Personne ne dit qu'elle n'ait été que noire. Bien sûr que non. Mais enfin, on a du mal quand même à compter dans une main
les écoles et les hôpitaux, et dans l'autre main, les massacres. Donc, soyons sérieux. On a refusé les bilans globalement positifs, c'est pas pour en réinventer à propos de la colonisation. Donc, je crois fondamentalement, les indigènes ont raison. Là où il y a débat avec eux, et débat plus large avec la société française, c'est que les choses ont bougé. C'est-à-dire, quand on dit post-colonial, par exemple, tout à l'heure, Daniel, on l'interprète d'une manière, on peut l'interpréter de l'autre, c'est que on souligne la différence entre post-colonial et colonial. C'est-à-dire, on n'est plus dans une société coloniale. Aujourd'hui, moi j'ai l'âge malheureusement d'avoir connu les bidonvilles tout autour de Paris. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs immigrés qui y vivaient. Je me souviens très bien de celui de Nanterre. J'y allais souvent. Bon, mais ça n'existe plus. Il y a des squats qu'on expulse ou qui brûlent. Mais c'est pas tout à fait la même chose que les bidonvilles. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes issus de l'immigration qui sont devenus médecins, professeurs, avocats. Donc je veux dire, il y a des métiers qui étaient interdits de fait à leurs parents ou à leurs grands-parents et qui aujourd'hui sont accessibles. Ça ne veut pas dire que tout a changé. La majorité, je le répète, reste ghettoisée, reste victime de discrimination. Et le racisme, l'islamophobie, ça touche tout le monde, y compris les gens qui ont réussi à se faire une petite place dans la vie. Deuxièmement, il y a un problème d'obsolescence aussi de la part des indigènes sur la question des alliances. Si je peux, j'aime bien le faire, donner un détail biographique, le seul. Ma mère, qui avait été cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale au Chambon-sur-Lignon, comme une jeune juive, et c'est grâce aux paysans de là-bas qu'elle a échappé à la déportation, dans les années 50, elle est devenue porteuse de valises. Et donc, elle a aidé les militants du FLN qui venaient, pour certains, dormir à la maison. On avait des piles de livres, le livre d'Allègre, le livre de Vidal-Naquet sur la torture dans la République, etc., etc. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que j'en suis très fier, mais pour dire que ça n'est pas ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Ça n'est pas d'un mouvement d'indigènes qu'un certain nombre de porteurs de valises aideraient dans leur lutte. Non, nous avons besoin d'un mouvement où on se retrouve tous, enfants de l'immigration et pas enfants de l'immigration, des immigrations d'ailleurs, il faudrait dire, à égalité de droits et de devoirs, dans une lutte commune, au fond, pourquoi ? Contre les discriminations, pour l'égalité des droits et l'égalité des chances. Donc ça, c'est une autre conception que celle des indigènes. Et à mon avis, c'est très important, on l'a vu avec Leïla Chaïd et Michel Warchavski dans nos tournées là, dans les villes et les banlieues, comme on a appelé ça, il y a vraiment une aspiration à un mouvement de ce type où on se retrouve ensemble, pas où chacun lutte de son côté, certains portant des valises. Il y a la volonté d'être ensemble.
La fracture coloniale, donc la société française au prisme de l'héritage colonial. Merci à tous, merci à Suzanne Citron, Dominique Vidal, Ronnie Broman et Pascal Blanchard. Pour les repères des amis de la base UJSUI, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter à la rubrique émission La base UJSUI. Technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Christophe Papon, Yann Chouquet, Raphaël Mouter dont réalisé cette émission, assistante Pascal Pascariello. Le répondeur, c'est le 0156 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.